France qui a fait le recensement des victimes de violences policières depuis mai 68. Il est décédé samedi dernier à 82 ans. Cet homme nous a inspirés dans le combat que nous avons mené pendant 13 ans. C'est un modèle, c'est un exemple. Et donc, je vais donner la parole à son fils pour un petit hommage. Merci beaucoup.
Chers amis, chères familles, chers camarades, merci de nous avoir conviés ici. Je représente également ma sœur qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous sommes très touchés, très émus de cet hommage à notre père Maurice. Il a rendu son dernier souffle samedi dernier, alors que vous étiez certainement parmi ceux qui manifestaient ici, nassés par la police. Il est parti juste avant 17h samedi dernier. Maurice avait le sens de la synthèse et de la formule. Il a écrit ces trois phrases concernant la possibilité pour n'importe quelle personne habitant ce pays de croiser le chemin de policiers peu enclins à engager le dialogue. Je le cite. « Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute. » Maurice a bénéficié très tôt, à l'âge de 14 ans, de la police française venue l'arrêter, ainsi que toute sa famille, lors de la RAF du 16 juillet 1942, au nom de loi raciale, dictée par l'occupant nazi. L'un des policiers ayant participé à cette saloperie était un voisin de palier de la famille. Maurice et sa sœur ont été libérés, mais ses parents ont été déportés à Auschwitz et y ont été assassinés. Voilà un démarrage dans l'existence qui ne porte pas à considérer la police comme une institution garante des libertés individuelles et de la démocratie. Du coup, quand nous apprenons par la presse il y a quelques jours que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a écrit dans une adresse à ses troupes qu'il ne laisserait pas salir la police, nous étions tous scandalisés par cette affirmation martiale. Comme si la police était faite d'une sorte de tissu anti-tache, il suffirait de laver à grande eau pour y faire disparaître tous ses méfaits. Dans la réalité, les différents corps de police et de répression sont faits d'une étoffe auto-salissante. Et le préfet Lallement est bien passé pour le savoir, lui qui a été placé à son poste par un gouvernement aux abois en raison de l'importante mobilisation des Gilets jaunes. Ce monsieur s'est même permis de convoquer la mémoire du général Galifet. Ce général a été un grand massacreur de centaines de Parisiens lors de la semaine sanglante qui mit fin à la belle expérience démocratique et sociale de la Commune de Paris au printemps 1871. Il était tellement courageux, d'ailleurs, ce général Galifet, que ses plus hauts faits d'armes par rapport aux communards, c'est d'avoir décimé les convois prisonniers qui allaient à Versailles. Il choisissait parmi eux les plus âgés, ceux qui avaient des têtes blanches, ceux dont il pensait qu'ils avaient déjà participé à la révolution de 1848. C'était une deuxième punition. Revenons à cette étoffe auto-salissante qui n'a cessé de se charger depuis plus de 80 ans. Faut-il rappeler au préfet Lallement l'attitude de la police française qui se met immédiatement au service des nazis dès l'entrée des troupes dans Paris? Les défections de policiers à ce moment-là vont se compter sur les doigts d'une seule main. Est-il nécessaire de rappeler le rôle central et décisif de cette police parisienne dans la traque et l'arrestation des Juifs, et en particulier les 16 et 17 juillet 1942, avec l'arrestation au petit matin dans Paris et toute la région parisienne de plus de 13 000 Juifs, hommes, femmes, enfants et vieillards, y compris les grabataires? Faut-il rappeler les ratonnades durant la guerre d'Algérie? Des dizaines d'Algériens assassinés à Paris et des centaines d'autres jetés à la Seine par les flics parisiens alors qu'ils manifestaient pacifiquement dans Paris pour protester contre un couvre-feu discriminatoire le 17 octobre 1961. On sait d'ailleurs que le préfet Papon était présent dans la cour d'honneur lorsque certains de ces Algériens ont été tués de sang-froid par les flics parisiens. Faut-il également lui rafraîchir la mémoire sur les 9 morts de Charonne le 8 février 1962 étouffés et massacrés par la police à coups de grilles d'arbres alors qu'ils étaient coincés dans l'escalier de la station de métro dont l'issue était fermée. Faut-il rappeler le déchaînement gratuit des CRS en mai-juin 68 ? Faut-il encore rappeler les tirs tendus de gaz lacrymogène et l'œil perdu par Richard Deher en 1971 ? Faut-il rappeler les charges et les violences gratuites contre les cortèges lycéens des années 70 et les contrôles aux faciès et le harcèlement permanent des jeunes dans les cités ? Faut-il évoquer l'assassinat de Macaulay Mbolé au commissariat des Grandes Carrières le 6 avril 1993, tué d'une balle à tout portant alors qu'il était menotté sur une chaise ? Et le plaquage ventral de la mine Gang le 17 juin 2007 et plus récemment la mort de Adama Traoré dans les circonstances analogues. On ne peut hélas tous les citer. Et hélas, pour ne pas finir, les nombreuses affaires qui se sont déroulées durant la mobilisation des Gilets jaunes et ces innombrables mutilés à vie et durant le confinement comme à l'île Saint-Denis où le racisme a été à son comble. Peut-on oublier ça ? Ou comme à Béziers où la milice néo-fasciste qui sert de police municipale par plaquage ventral une nouvelle fois. Et puis, informations qui nous sont parvenues sur ces réseaux sociaux accessibles uniquement aux membres des forces de l'ordre, où se déchaînent le racisme et la testostérone. Quand il y a près de 8000 abonnés à un de ces réseaux, on ne peut plus parler de cas isolés, de brigadeuses, c'est tout le système qui est en cause. Alors oui, tout cela doit changer. Assez de salissures dont les forces de la police ont la responsabilité. Les policiers et les gendarmes ne sont pas des justiciers. Les sévices corporels ont été supprimés lors de la Révolution française de 1789 et la peine de mort a été abolie en 1981. Pas de vérité, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Laissez-nous respirer. Le combat de Maurice continue.
Merci beaucoup. De grands applaudissements, s'il vous plaît. Pas de justice ! 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 Laissez-nous respirer ! Laissez-nous respirer ! Laissez-nous respirer ! Laissez-nous respirez, laissez-nous respirer, laissez-nous respirer. Les mots sont redites, ils ne sont pas pour rien. Derrière ça, derrière ces mots, ce qui se cache, c'est la clé d'étranglement, une technique qui tue. On aura l'occasion de reparler. Afin de respecter le programme, je vais laisser à nouveau la parole à Ramata et Fatou. Et juste pour info aussi, pour soutenir les familles, sachez que vous avez des t-shirts en vente juste derrière. Et également, sous le chapiteau rouge là-bas, vous avez également une cantine. Donc si vous voulez vous restaurer, vous avez de quoi faire.
Je vais d'abord commencer par vous dire comment la mine a été tuée. Ensuite, vous dire comment la justice française a traité ce dossier. Et vous dire comment nous avons vécu ces 13 années de lutte. Donc, mon frère Lamine Dieng avait 25 ans en 2007. La police a été appelée ce 17 juin 2007 pour tapage nocturne dans un hôtel. C'est eux qui déclarent qu'à leur arrivée, avant de rentrer dans l'hôtel, ils ont trouvé Lamine qui se cachait sous un véhicule en stationnement. Et donc, ils ont interrompu leur mission dans l'hôtel pour interpeller Lamine. Ils disent qu'ils l'ont interpellé pour sa propre sécurité. Lamine ne s'est jamais retrouvé debout. Ils lui ont demandé de sortir de sous le véhicule. Il s'exécutait quand une policière a attrapé ses deux chevilles, a tiré pour le plaquer au sol. Ensuite, elle a pressé les talons d'Achille de Lamine avec sa matraque. Pendant que son supérieur hiérarchique faisait l'aller-retour entre la chaussée et le trottoir, entre deux véhicules en stationnement. C'est-à-dire qu'il passait sur le corps de Lamine, en fait, pour aller d'un point A à un point B. Pendant que deux policiers tiraient sur le bras de Lamine, un sur le bras gauche, deux autres policiers tiraient sur le bras droit. Donc, ils étaient à cinq sur lui, quand sur la chaussée. Ensuite, ils l'ont menotté, un bras passé par-dessus l'épaule, je vous montre. les chevilles attachées avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné au fourgon de police. Ils l'ont posé face contre terre. Et là, ils se sont agenouillés à plusieurs, quatre minimum sur son corps. Ils ne diront jamais qu'il y avait quelqu'un sur la tête de la mine. Pourtant, il y a 10 hématomes sur la tête de la mine. Donc, il y en a un qui s'est agenouillé sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin et un sur les jambes repliées jusqu'aux fessiers. Pendant qu'ils étaient sur le corps de la mine, il a vomi et respiré son vomi. L'autopsie va révéler du vomi dans tout son appareil respiratoire. L'autopsie va dire également qu'il y avait un œdème cérébral qui a occasionné un engagement cérébelleux. Cela veut dire quoi? Que forcément, il y avait un policier qui faisait pression sur la tête de la mine. Et c'est cette pression sur la tête qui a fait que le cerveau a manqué d'oxygène. Et ce manque d'oxygène fait que le cerveau gonfle. Et il gonfle à un tel niveau, il atteint un tel degré de gonflement qu'il ne peut plus tenir dans la boîte crânienne. Et donc, c'est le cervelet qui se trouve donc à l'arrière de la tête qui commence à sortir par le cou. La mine n'avait aucune chance de s'en sortir. Il y avait 8 policiers pour un homme. 8. Et parmi ces 8, il n'y en a eu aucun pour dire « ça suffit ». Un homme qui a les 4 membres entravés ne peut rien faire à part respirer. Et ils l'ont empêché de respirer en s'agenouillant sur lui. Le magistrat instructeur va nous refuser la reconstitution sur la scène de crime. Il va également refuser d'entendre les témoins que nous avons trouvés nous-mêmes dans les bâtiments en face. Et donc en 2014, 7 ans après, il va prononcer un non-lieu. Mais entre-temps, en 2012, il a placé les policiers sous le statut de témoins assistés, ce qui leur donne accès au dossier, de coordonner leur défense et leur version de l'histoire, mais sans être vraiment inquiétés. Aucun d'entre eux n'a été mis à pied. Aucun d'entre eux n'a perdu ne serait-ce qu'une heure de salaire. Aucune sanction pour eux, qu'elle soit disciplinaire ou pénale. Ils sont en totale liberté. Ils ont été promus entre-temps, pendant que nous, on se battait contre la justice. Il y en a qui enseignent dans les écoles de police dans le Sud. Donc, en 2014, de non-lieu tombe. On fait appel. On passe devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui va mettre un an pour confirmer le non-lieu. Donc, en 2015, la chambre de l'instruction confirme le non-lieu. On fait encore appel. Et là, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle va mettre 2 ans. Donc, en 2017, de 2015 à 2017, elle va confirmer définitivement le non-lieu. Cela veut dire quoi? Qu'il ne s'est rien passé. Un non-lieu, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, les preuves sont dans le dossier. Et des preuves scientifiques incontestables. Mais ça ne suffit pas au magistrat. Parce que sa volonté est de protéger les policiers et non pas la manifestation de la vérité. Donc, fin 2017, au mois de décembre, nous allons porter notre requête à la Cour européenne des droits de l'homme sur 2-3 articles. L'article 2, le droit à la vie. L'article 3, contre la torture et traitement inhumain et dégradant. Et l'article 6, qui est donc le droit à un procès équitable. La Cour européenne va retenir l'article 2 et l'article 3, mais elle ne va pas retenir l'article 6. Et donc, il y a une nouvelle procédure à la CEDH qui date de décembre 2018. Et donc, cette procédure a vocation à proposer aux parties un règlement amiable. Et donc, cette proposition, la Cour européenne nous l'a fait en octobre 2019. Elle envoie cette proposition à la France, au gouvernement français et à la famille Jane. Le gouvernement français accepte de verser ces indemnités fixées par la Cour européenne. Et donc, la famille a accepté sur les conseils également de leur avocat. Parce que c'est un aveu de culpabilité. Personne, encore moins un État, n'accepte de verser des indemnités à son accusateur s'il n'est pas coupable. Et donc, l'aveu, c'est encore mieux que la condamnation. Ils n'ont pas acheté notre silence. Au contraire, c'était la condition sine qua non pour qu'on accepte ce règlement amiable. Et donc, vu que c'est public et que nous sommes libres de notre parole, et c'est ça qu'on veut passer aujourd'hui. C'est ce message-là qu'on veut dire aux gens. À toutes les victimes, ne renoncez pas à vos droits. Battez-vous. C'est dur, c'est long, mais il y a possibilité d'obtenir gain de cause.